Elle est grande. On tourne dans Romains au chapitre 7, qu'on termine aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de pleurer. Ah, mais regarde, il y en a une ici qui a amené son mouchoir.
Non, je
ne peux pas. Non, OK. Non, mais hey, parce que c'est le fun, parce qu'on va être dans Romains 8. Mais il y a vraiment du bon stock, c'est tellement merveilleux. Ah, là, j'aurais pu dire cette expression-là. Ah, là, j'ai créé un précédent. Hein. Mais moi, je m'en rends pas compte. Je veux dire, c'est du monde ordinaire aussi, d'une façon. Ils ont fait des choses hors de l'ordinaire, mais...
Ils ont peut-être pas
tout. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, ça doit être rare. Ouais. On va aller dans... c'est ça, on est en chapitre 17. On va aller... On va vraiment lire sur quoi on va se concentrer, la guerre intérieure, versets 21 à 25. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, c'est la partie 2 de la guerre, le combat, comment je dis? Le combat charnel de l'homme spirituel. On a vu la semaine dernière, avec les versets 15 à 20, le péché qui habite en moi. On a vu ça ensemble assez en détail. Et là, on va voir la guerre intérieure. Dans les versets 21 à 25 qu'on vient juste de lire. Il faut vraiment bien porter attention ici à ces vérités qu'on va voir parce qu'elles sont précieuses pour illuminer ce qui peut nous arriver dans nos vies, dans nos quotidiens. Puis on se dit, ah, coudonc, c'est pas normal, ça doit rien qu'être moi qui est le même. Ben Paul ici, l'apôtre. Je vous dis, c'est le combat charnel d'un homme spirituel. Paul a écrit ça au moment, je veux dire, il parle de lui au moment où est-ce qu'il écrit. C'est pas comme, dans le temps qu'il n'arrachait et qu'il était un petit nouveau chrétien. Non, non. Paul parle d'une réalité qu'il vivait dans sa vie. Et donc, c'est à comprendre comme quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne, du combat de la vie chrétienne. C'est pas la vie chrétienne normale. Et là, je paraphrase Watchman Nee, qui dit que la vie chrétienne normale, c'est par l'esprit, c'est Romains 8. Mais l'expérience Romains 7, parce qu'on n'est pas parvenu, puis parce qu'on a le péché qui habite en nous, puis on a encore la chair, ben c'est ça. On passe par des bouts de main. Puis là, on va voir vraiment ce qui se passe. C'est quoi cette guerre-là? C'est quoi qui arrive en dedans de nous autres quand on parle de cette guerre à l'intérieur? D'abord, quand ça dit au verset 21, quand il dit « Je trouve en moi cette loi », le mot « loi » ici, bon, on parle pas mal de « loi » là dans Romains 7, puis on en parle des fois comme étant le code moral de Dieu, la loi, OK, dans le sens de « loi de Moïse », 10 commandements, OK, ou même, bon, l'ensemble des commandements de la parole. Ben c'est pas ça ici dont il est question. Ici, quand il dit « je trouve en moi cette loi », c'est « je trouve en moi ce principe, je trouve en moi cette réalité qui est toujours la même. » Un peu comme la loi de la gravité. « Je trouve en moi, là, cette chose qui est tout le temps là. » OK? Vous comprenez? La loi de la gravité, la loi de l'aérodynamique, la loi de la centrifuge. Ça régit le fonctionnement de certaines choses. Ben là, en dedans de moi, le fonctionnement de certaines choses est régi par cette loi dont il va nous parler ici. C'est la première, il en parle d'une autre après. Première loi ici dans les questions. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça veut dire que un enfant de Dieu qui aime le Seigneur a toujours la présence de sa chair qui est là. Puis comprenons-nous bien, quand il dit « quand je veux faire le bien », la personne, elle aime le Seigneur, elle veut plaire à Dieu. OK? Donc, c'est vraiment ici quelqu'un qui a des bonnes intentions. OK? On ne parle pas de quelqu'un qui se fout de Dieu puis qui dit, ah là, je lance la serviette puis je fais ce que je veux. Non, non, je veux faire le bien. OK? Mais il dit, au même moment, là, le mal est attaché à moi. Ça, c'est la chair. C'est le péché en moi qui est là au rendez-vous pour essayer de défaire ce que Dieu veut faire. Ou je dirais déformer. Parce que souvent, c'est pas tant l'attaque directe, là, la contrefaçon absolue. Je voulais dire à quelqu'un qui est beau, puis j'ai dit qu'il est laid. Ou, tu sais, je voulais être gentil, puis là, finalement, je suis très méchant. Non, ça va être plus que j'avais quelque chose de la bonne intention, mais je le fais avec un mauvais motif. Je veux dire, je voulais faire la bonne affaire, mais je le fais avec un mauvais motif égocentrique. Fait que ça, c'est la chair, OK, pour être applaudi des autres et tout ça. Ou ça peut être, je veux amener à quelqu'un, mettons, une bonne chose, une vérité de la parole, un encouragement, mais je peux avoir une attitude condescendante. Je peux peut-être avoir ce sentiment un peu de supériorité. Je te parle, mais dans le fond, moi, tu sais, j'ai pas ce genre de problème-là. Tu comprenez-vous? Ça peut être dans la subtilité que ça se joue. Souvent, c'est ça. C'est pas nécessairement là, l'opposé total. Des fois, c'est une déformation, c'est une contamination. Appelons-le comme ça. OK? Et on est toujours confronté à cette loi quand on veut faire le bien. C'est pour ça que la Bible dit « marcher par l'Esprit ». Parce que si je ne marche pas activement par l'Esprit, d'ailleurs, ça dit « si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », mais ici, ce que ça implique, c'est « si je ne marche pas par l'Esprit, par défaut, je vais m'en aller, je vais faire quelque chose avec ma chair, parce qu'elle est là, OK? » La chair, le péché qui habite en moi, c'est une réalité du quotidien pour un chrétien. Mais là, on n'est pas obligé d'y être assujetti, puis Dieu a tout fait pour... Il a brisé la puissance, l'emprise de la chair sur notre vie. Puis on peut marcher dans la victoire, marcher par l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Donc, je ne suis pas en train ici de vous donner une fatalité, là, que vous êtes pogné comme ça, comme si vous étiez une victime totale de cette loi-là, mais c'est une réalité. OK? Elle peut être vaincue, mais cette réalité-là, je veux prendre le temps de la décrire comme il faut, elle est là. OK? Bon. Et je dirais pour la plupart du temps, comment que cette loi-là va se manifester? Quand c'est le temps de répondre à une situation, répondre à quelque chose que Dieu envoie, je réponds à la chose, je réponds, j'ai ma réponse, au lieu de m'attendre à la réponse de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. La plupart du temps, là, c'est le mal que ça se fait. Le mal est attaché à moi. Le mal, c'est... Je veux... C'est moi qui... Des fois, là, le mal qui est attaché à moi, c'est moi qui essaie de faire le bien. Comme je l'ai dit ce matin. Des fois, mon service pour Dieu peut être une désobéissance envers Dieu parce que c'est moi, c'est ma chair qui le fait. Je sens Dieu, mais dans la puissance de ma chair. C'est une désobéissance. OK? Donc, c'est à bien comprendre ici. Là. Il y a vraiment ici... C'est pour ça que ici, ça parle de la guerre intérieure. Puis la force de cette guerre-là, ce qui nous prend, c'est sa subtilité, c'est sa tromperie. Parce qu'on peut avoir des bonnes intentions, on peut aimer le Seigneur, tu sais, je veux faire le bien, mais il y a cette contamination-là qui est là. Et donc, qui fait de moi l'initiateur, qui fait de moi celui qui est au contrôle, qui fait de moi celui qui règle le problème. Au lieu de simplement m'attendre à Dieu, m'appuyer sur lui, répondre par la foi à ce que Dieu m'appelle à faire. OK? Comprenez? Donc, c'est la réponse indépendante. On va le mettre demain. La réponse indépendante. C'est ça le mal. C'est l'indépendance de Dieu. On se comprend mieux? Versets 22 et 23. Car je prends plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur. Pour ça, je vous dis, là, ici, on parle vraiment de quelqu'un qui aime le Seigneur, puis il n'y a pas de problème, là. Je veux dire, il est régénéré, il y a un cœur nouveau qui prend plaisir en Dieu, en sa parole, OK? Mais, ça, c'est un pas fin mais, ça, c'est pas un bon mais, là. C'est pas un mais Dieu, celle-là. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Ah, OK, attendez, excusez. Avant d'aller dans le verset 23, je prends plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur. Là, c'est vraiment la loi, les Écritures, la parole de Dieu. OK? C'est pas comme tantôt, là, la gravité, un principe. Là. C'est la loi de Dieu. Dans mon cœur, là, je prends plaisir à la parole de Dieu. Mais je trouve dans mes membres, okay, comme dans genre, quand les passions dans mes membres, une autre loi. Et là, c'est comme la première loi de tantôt, un principe, quelque chose qui est toujours pareil, comme l'idée de la gravité. OK? Donc, je trouve une autre loi, un autre principe. qui lutte contre la loi de mon entendement. Ça peut être mêlant, ça fait pas mal de lois, mais tu sais, je trouve en moi cette force, ce principe, cette direction qui va contre la direction de mon entendement. Dans ma tête, là, je veux plaire à Dieu, je veux faire le bien. Mais là, il y a cette force antagoniste qui va contre ce premier principe bienfaisant. Donc, il va contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Encore là, le mot loi. Encore là, la loi du péché, ça me tire vers le bas. La gravité, pensons à gravité ici. La gravité du péché qui me tire vers le bas, qui est dans mes membres. Bon, on va décortiquer ça un petit peu. Ici, dans le fond, ça décrit précisément c'est quoi qui se passe quand que... tu sais, dans les fameux moments où est-ce qu'on veut faire le bien et que le mal est attaché à nous, là. Le verset 22 et 23, ça nous le décrit bien. D'abord, quand ça dit, là, « Car je prends plaisir à la loi de Jésus selon l'homme intérieur », ça, c'est l'homme, la femme, là, créé en Jésus-Christ. Ça, c'est notre nouvelle nature. C'est ce qu'on est vraiment. C'est ce que Dieu a fait de nous. Hein, on en parle souvent, hein, de ça. Ça, là, cette partie-là, puis je veux pas dire cette partie-là de nous parce que je veux dire « c'est nous », OK? Mais je veux dire cette partie par opposition à la chair, OK? Mais ce que Dieu a fait de nous, là, on est vraiment une nouvelle création en Jésus-Christ. On a encore la chair, mais vraiment, on a un nouveau cœur, puis c'est une nouvelle job complètement faite, c'est ce que nous sommes, OK? C'est notre identité. On prend plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, c'est ça, c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, puis juste là-dessus, là, je vous lis rapidement deux références par rapport à l'homme intérieur. D'abord, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, ça c'est notre chair, notre corps, ok, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça c'est ce que Dieu a créé, nous a créé en Jésus-Christ, ça c'est notre être recréé en Jésus-Christ. Puis aussi dans Colossiens, au chapitre 3, et les versets 9 et 10, on peut lire... Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est fini, ça, c'est le vieil homme, c'est fini, vous étant, c'est quelque chose du passé. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. OK? Donc, quand ça parle ici, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est selon ce que Dieu a fait de moi, selon ma réelle identité. La personne que je suis maintenant. OK? Ça, c'est important à comprendre, OK? C'est pas le chien noir, le chien blanc, j'ai deux natures en moi, il faut que je nourrisse le chien blanc. Pour... Non, non, je veux dire, on a vraiment une nouvelle nature, puis le vieil homme, il est passé. OK? On change de cimetière, une affaire de cimetière avec notre frère. Fallait que tu me l'as pas expliqué, ben, ou je l'ai pas compris, là. Vous parleriez à Joseph de son cimetière. On choisit notre cimetière. On est soit en Adam, soit en Christ. C'est ça, dans le fond, c'est ça. Mais dans deux cas, c'est mort. Mais j'aime mieux être mort en Jésus-Christ et vivant pour lui. Bon. Donc, verset 22, c'est le nouvel homme. Et lui, évidemment, c'est pas le problème. Ça, c'est la solution. C'est ce que Dieu a fait de nous. Mais là, le verset 23 nous amène ici une clarification. Trois fois, il y a le mot « loi » dans ce verset-là. Donc, c'est important ici. Puis vraiment, « loi » ici, c'est tout dans le sens de « principe ». OK? Pas comme dans le verset 22, là, comme la loi de Dieu, la parole de Dieu, mais principe. Je trouve dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. Ben, j'ai une loi dans moi qui agit contre une loi de mon entendement qui me rend captif à la loi du péché. Je ne veux pas être légaliste, là, mais ça fait pas mal de lois. Là. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure. OK? D'abord, quand ça parle d'une autre loi. Le premier, là, mais je trouve dans mes membres une autre loi. Ça, c'est la loi, la force, le principe de la chair. Les passions qui luttent dans mes membres. C'est le fameux péché qui est en nous, comme on a vu la semaine passée. On n'est pas né avec ça. On a beau être sauvé et être né de nouveau, le péché est encore en nous. Il n'est pas obligé de régner en roi et maître comme il régnait avant qu'on soit... sauvé, OK? Dieu en a brisé la puissance, mais il est là. Puis ma chair, qui veut être indépendante de Dieu, tombe facilement là-dedans. Puis quand ça dit ici, écoutez bien, il y a une expression tellement importante. C'est dans mes membres, c'est dans mon corps, c'est les passions, OK? Comme ça dit dans Jacques. mais ça dit « je trouve cette loi qui lutte ». Vous savez, c'est quoi le mot « lutte » C'est un petit mot en français. En grec, c'est deux mots « anti » puis « stratagème ». Un stratagème compte. Fait que c'est pas juste une force impersonnelle. Savez-vous que la chair, là, tu sais, ma volonté, ma pensée, mes émotions, là, indépendantes de Dieu, là, a une façon de penser sur comment dépenser mon argent, comment répondre à quelqu'un qui me tape ses nerfs, comment dealer avec les anxiétés de la vie. Il y a un stratagème. C'est bien ficelé. Il y a une façon de penser, il y a une philosophie de vie qui va avec ça, qui va contre la parole de Dieu, qui va contre ce que Dieu a fait de moi. C'est ça ici, l'idée, je vois dans mes lois, dans mes membres, une autre loi qui lutte. Puis qui lutte contre quoi? La loi de mon entendement. On a la pensée de Christ. Quand vous voyez l'expression « loi de mon entendement », pensez à la pensée de Christ. Dieu nous a donné une nouvelle pensée. Maintenant, on pense plus de la même façon, n'est-ce pas? Depuis qu'on est sauvé, là. On ne voit plus le monde de la même manière. On aime Dieu, on veut Dieu, puis ce qui nous a entré, c'est justement ce combat-là là, qui nous tient vers le bas, puis là, ce qu'on a vu la semaine passée, on veut faire quelque chose, mais on ne peut pas, OK? Mais la loi de notre entendement, c'est-à-dire, c'est Dieu nous ayant renouvelé l'intelligence, puis bon, c'est quelque chose qu'il a fait au moment du salut, mais qui continue toujours, on grandit toujours hein, dans ce renouvellement de l'intelligence, ben c'est un stratagème contre l'autre. Dieu, il a un plan pour nous autres. Dieu, il y en a un stratagème pour notre vie. On a choisi de faire confiance. Comme je disais tantôt, si on dépend de lui, on va s'arrêter, on va dépendre de lui. Le stratagème de la chance, non, je vais m'organiser tout seul. Pas besoin de demander à Dieu. OK? Fait que c'est vraiment une loi contre l'autre. Le mot entre les deux, c'est tellement important. Anti-stratagème. Dieu a... En fait, je dis stratagème, on pourrait dire, tiens, Dieu a un plan pour notre vie. Car je connais les plans, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Puis ça, ben, il faut juste faire confiance à Dieu, se laisser diriger. Hein, dans des moments, est-ce que, voyons, j'aurais pas fait ça, puis tiens, paf, Dieu nous redirige. Puis ça, c'est le plan de Dieu qui se dessine. C'est son stratagème pour notre vie. Mais la chair en a un autre qui va contre cette volonté de Dieu, qui va contre le flot de la vie de Dieu. C'est un flot de mort. Et c'est un flot qui va selon l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. C'est pour ça que ça n'a pas l'air si mauvais. Là. Ben, voyons, ça a du bon sens. Là, ce que je veux faire, moi, je veux faire le bien, là. C'est justement ça le problème. Je veux faire le bien, mais je ne suis pas dans la vie. Je suis dans l'arbre de la mort. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il y a bien du monde qui veut faire du bien avec ça. Hey, c'est le fun, un arbre de même. J'apprends toutes sortes de choses à faire pour faire le bien. Mais l'issue, c'est la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. OK? Tout le monde est encore avec moi? J'ai pas trop mêlé avec mes affaires de stratagème, puis trois fois loi. Là, on en a deux. Là. Fait que loi... dans mes membres, hein, la chair, loi de mon entendement, la pensée de Christ en moi, les deux sont opposés. Et là, ça dit qu'il me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Attendez, avant d'aller, il y a juste quelque chose que j'ai oublié ici que je voulais vous dire. La chair va jamais changer d'avis par rapport à Dieu, sa parole. Essayez pas d'améliorer la chair. C'est une loi, c'est un principe. T'sais, essayez pas. Vous essayez de vous battre contre la gravité, vous allez vous battre toute votre vie, vous allez être vraiment découragé puis très fatigué à la fin de votre vie. Ben, la chair, c'est une loi qui me tire tout le temps vers le bas spirituellement. T'sais, Dieu veut pas qu'on améliore notre chair, qu'on sanctifie notre chair. Il dit, je m'en ai occupé, je t'ai crucifié avec Christ, puis j'ai réduit à l'impuissance cette chair pour plus qu'elle soit hors de portée de nuire. Donc, que tu n'aies plus à être son esclave. OK? Elle est là, puis elle s'essaye, mais maintenant, Christ en toi est là. Puis lui, Christ, son esprit de vie nous libère de cette loi du péché puis de la mort. OK? Je vais en prendre les questions tantôt. J'en vois qui zigonnent un peu. Je ne veux pas perdre mon train de pensée. De toute façon, j'en ai pas pour si longtemps. Mais prenez des notes, ceux qui ont des questions. La chair ne va jamais changer d'avis par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la parole, par rapport à la pensée de Christ. En fait, pour être sûr qu'on s'entend tout le monde, là, essayez pas d'améliorer votre chair et votre condition de la chair, parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Mais ça va pas arriver, la Bible dit qu'elle peut pas. La chair, elle peut pas plaire à Dieu. Fait que ça va pas arriver, il faut pas essayer de l'améliorer. Il faut vivre selon ce que Christ a fait et vivre selon la réalité de cette œuvre de Christ en nous. C'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Bon, là, ça m'amène à l'expression qui me rend captif à la loi du péché. Ici, le mot captif, c'est une image là, militaire, comme les prisonniers qui amenaient, tu sais, qui amenaient les gens avec au bout de la lance, puis tu sais, t'es captif, t'es poigné, t'es comme ça, puis t'es à la merci de l'autre, là, faut que tu te rendes ce qu'il veut. Là. Fait que c'est ça ici l'idée. Cette loi-là, là, si je jette, ça me rend captif, j'ai pas de liberté, là. Je suis à la merci, puis le péché m'amène ce qu'il veut. OK? C'est pour ça qu'il arrive avec le verset 24, misérable! Moi, je suis là, puis je veux faire le bien, puis je finis comme un captif qui veut pas aller où ce qu'il veut. En gros, c'est ça l'image. OK? Si je voulais très, très simplifier. Fait que là, il est misérable, ça n'a donc même pas de bon sens. Voyons donc, c'est pas la vie chrétienne, ça. Exactement. C'est pas la vie chrétienne. C'est essayer de vivre la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne d'un homme spirituel qui se bat avec des armes charnelles. C'est le combat charnel de l'homme spirituel. C'est vraiment spécial comme concept pareil. Qu'un homme spirituel qui aime le Seigneur, ou une femme, là, okay, je parle en général, le masculin dans cette phrase est générique et inclut l'homme et la femme. Et donc, c'est une réalité. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur, mais qui ne vit pas la liberté, l'affranchissement que Dieu lui a déjà procuré. Il est béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, mais il vit comme un mendiant. Il vit comme quelqu'un de misérable, c'est un bon mot, puis ici, qui me délivrera de ce corps de mort? On a vu ça souvent ensemble, hein? C'est la bonne question. Qui? Puis juste amener ici, là, ce point-là, le verset 24, c'est exactement là que Dieu veut qu'on se retrouve. T'avoue que c'est la volonté parfaite de Dieu qu'on soit misérable dans ce pattern de chair. C'est la volonté parfaite de Dieu. Puis on fait le tour ici, là, on l'a vécu de différentes façons ici, chacun. Puis j'espère qu'on continue. Même des fois, c'est dans les louanges. Mais tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on expérimente la liberté. Parce que quand on crie misérable, qu'on dit « Voyons, non, ça n'a pas de bon sens, c'est pas normal », Dieu dit « Amen, c'est pas normal. J'ai tellement mieux pour toi. » Fait que c'est la volonté de Dieu que ça marche pas, que ce combat-là, là, que ça finisse mal. Puis c'est la porte de la délivrance quand on dit « misérable que je suis », puis que là, on continue avec « Qui me délivrera? » dit « Ben, c'est about time! Me voici! » Là, c'est Dieu qui me dit « Me voici! » là, pas Esaïe qui dit « Me voici, envoie-moi! » Je suis là! Tout ce temps-là! Mon enfant, je t'aime! Je t'ai vu te débattre! T'étais à mon école! Puis en passant, on parle au passé, mais je ne veux pas décourager non plus personne ici, mais jusqu'à temps qu'on meurt, notre chair va être encore là. Elle a des stratagèmes, là! Oh, mon ami est sophistiqué! Mais j'aimerais vous encourager avec ceci. Oui, ici, on parle de loi spirituelle, il y a des choses qui sont là. Mais quand on passe le Jourdain, quand on apprend à vivre dans Canaan, quand on apprend à vivre par la grâce de Dieu, ben la grâce de Dieu, quand on laisse vivre Christ vivre en nous, on commence à s'habituer à découvrir une nouvelle vie. Au lieu d'être tout le temps misérable, d'être tout le temps pogné là-dedans, ça va nous arriver, mais ça va être plus surprenant que ça va être l'habitude. Et ça, c'est vrai, là. Je veux dire, on peut sortir de Romains 7, pas de façon absolue, mais tu sais qu'au lieu que ça soit comme un style de vie, qu'on a tout le temps été habitué, hey, je goûte à Romains 8, je goûte à la liberté, puis c'est ce que Watchman Nee appelle la vie chrétienne normale. Ce que je vous décris là, là, c'est pas normal. Ben, je qualifie. C'est normal qu'on le vive, mais c'est pas la normalité que Dieu a pour nous autres. Tu sais, il y avait une expression avant, là. Hey, c'est drôle pareil, hein? En 2020, quand tout ça a commencé, ils disaient, tu sais, il y a l'expression « la nouvelle normale », là. C'est drôle pareil que Dieu nous a enseigné la nouvelle normale à travers ça. Hey, c'est bien mieux celle-là du monde, hein? Mais c'est vrai! Hey, moi, j'aime tellement ça, la nouvelle normale. Et puis les autres, je sais pas trop ce que ça veut dire, leur nouvelle normale, là. C'est du ballonné, là, ça vaut rien. Ou c'est des escargots. Mais non, ça, c'est bon, des escargots. C'est bon, hein? Amen! Alors, on va parler d'escargots. J'ai 10 minutes à parler des escargots dans mon message. Non, OK, là, je veux juste vous amener le point. C'est exactement la volonté de Dieu qu'on soit là. Le verset 24, c'est souhaitable. Pourquoi? Parce qu'on rend les âmes. Puis on dit, j'arrête d'essayer, j'arrête de vouloir faire le bien. C'est ça l'arbre de la connaissance bienvenue, c'est vouloir faire le bien. Mais avoir, pas avoir la capacité de le faire, parce que c'est moi, c'est pas Christ qui essaye, qui le fait en moi. Christ n'essaye pas, Christ le fait. Ça nous amène, bon, puis c'est un cri du cœur merveilleux, et c'est précisément là, cette conviction que le Seigneur, c'est là qu'il veut nous amener. Et je parle souvent du verset 24, qui? Mais je veux terminer, c'est important, le verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. D'arriver à cette reconnaissance, parce que reconnaissance, on reconnaît, tu sais, on connaît le Seigneur, puis là, c'est comme, on l'apprécie, ou comme ça dirait dans l'annonce de Kellogg, goûtez-y encore pour la première fois. C'est comme, on connaît le Seigneur, on sait c'est quoi les affaires de la grâce, hein? Nos frères disent, ah oui, j'ai entendu ça, mais là, c'est, ah, il y a une fraîcheur, il y a une réalité, il y a une espèce de nouveauté à cette ancienne réalité. Que c'est pas nouveau, mais on l'apprécie comme on l'avait. Tu sais, grâce soit rendue à Dieu. Waouh! Là, Jésus est précieux. Quand on vit la misère de la chair, puis qu'on commence à goûter à la douceur de la grâce, de la réalité de Christ en nous, waouh! Et ça, c'est tout. On parlait ce matin de la culpabilité comme motivation. Pas très bon. Mais la grâce, la reconnaissance, la gratitude comme motivation, ça c'est fort. Hey, merci Seigneur, t'as tout pourvu, t'as tout sous contrôle. Dieu, il y a zéro problème avec toi là. Merci. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, c'est vraiment la volonté de Dieu parfaite pour ses enfants. Oui, de la misère du verset 24, mais aussi la reconnaissance. Voyez-vous, un mène à l'autre. Du début du verset 25. Et tout ça, ça met la table, ça prépare pour le glorieux chapitre 8 de Romains. Et le verset 25, la fin, la deuxième partie du verset 25, là, le « ainsi donc », c'est la conclusion vraie et je dirais inévitable. On ne peut pas y échapper. « Je suis par l'entendement » et ça, la pensée de Christ, OK? Esclave de la loi de Dieu. Toutes les personnes ici qui ont l'Esprit de Dieu, vous aimez Dieu, vous aimez sa parole, ça dit « Yeah, Amen » dans votre cœur. N'est-ce pas? On est esclave de Dieu, on n'a même pas le choix. Je veux dire, des fois on peut être déprimé, mais sa parole est toujours comme un rayon de miel. N'est-ce pas? Ça, ça vient des psaumes, Geneviève. C'est beau, hein? Il y a des belles affaires dans les psaumes. Donc, je suis esclave. Ça, c'est un bon esclavage, la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et ça, c'est vrai, mais c'est pas la fin de l'histoire, parce qu'on va voir hein, au verset chapitre 8, verset 22, je l'ai cité tantôt, car chose verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est pas une condition inévitable et inéchappable que la conclusion où est-ce qu'il arrive. Au verset 24, non, c'est le chemin vers la délivrance, c'est le chemin vers la vraie vie. Il faut passer par Romains 7 pour arriver dans Romains 8. Ou pour le dire autrement, on parle de loi spirituelle. J'ai pas mal parlé de loi spirituelle aujourd'hui, de principe. On peut pas revivre sans subir la mort. Puis là, je parle pas de mourir à nous-mêmes. Mais il faut passer par la mort, de se rendre compte. Moi, là, en dedans de moi, là, avec ma chair, là, je ne sais pas ce que ça prend pour plaire à Dieu. J'ai beau être vraiment bien motivé, là, pis c'est vraiment ce que j'aime. Là. C'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la vie. Le pas moi, c'est le bout de mort. Ça. C'est pas moi, c'est la mort. Il faut passer par la mort du pas moi pour vivre la vie de Christ en moi. Juste, simplement, là, c'est ça. C'est pas moi, ça, c'est la mort. C'est Christ qui vit en moi, c'est la vie. Question? Commentaire, tu veux dire de quoi, oui?
Dans le chapitre 7, là, il parle, à la fin, ce qu'on a lu, là, il parle de Pierre 8, 2. Il y a trois lois. c'est quoi les trois lois? Juste pour...
Bon, au verset 23, la loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La première loi qui est dans mes membres, c'est la loi du péché qui me tire vers le bas. OK? C'est dans ma chair. OK? Les passions dans mes membres. C'est une loi. La loi de mon entendement, c'est le renouvellement de mon intelligence. C'est la pensée de Christ. C'est la semence vivante qui m'a régénéré.
Puis elle est où cette loi?
Dans mon esprit. Dans mon esprit. Qui me rend captif de la loi du péché dans mes membres. Encore là, mes membres. Ça, c'est dans mon corps. Mon corps est le véhicule du péché. Tu sais, c'est avec ma bouche que je vais maudire l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Tu sais, comment ça dit là, dans Jacques? Là? On bénit Dieu, puis on, avec la même bouche, on maudit. Là. Fait que ça, c'est avec le corps. Oui, Christina?
Donc,
tu veux-tu faire la division corps, âme et esprit, c'est ça?
Non, donc, si je comprends bien, là, la loi du péché et de la mort est la vie dans nos membres.
Oui.
Dans la chair.
Oui.
La loi de l'entendement, ce qui est la pensée de Christ, dans le fond.
C'est dans l'homme intérieur.
C'est dans notre partie, l'esprit.
Oui.
Et qui a été renouvelé, puis
oui.
On est dans Christ maintenant.
Oui.
Donc, puis... Là, il y a 3e, 8:2, Romains 8:2, ça dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle est où cette loi? »
Elle est où?
Elle est où, oui.
Ben, elle est en Jésus-Christ, c'est...
C'est ça, OK. C'est bon. Donc, elle est en Jésus-Christ, cette loi.
Oui.
Et pas en nous.
Non.
C'est
la vie qui est en Jésus.
C'est ça, c'est la vie Jésus.
Ben, on peut dire en nous, parce que Jésus vit en nous.
Oui. Okay, bon.
C'est Jésus donc, qui nous l'a fait couler.
C'est Jésus, c'est ça. C'est sa vie. C'est lui qui l'a fait couler.
OK. Donc, excusez, c'est juste pour résumer, là, je m'en viens quelque part à quelque chose, OK? Donc, il y a la loi du péché de la mort dans nos membres, dans la chair, qui nous tire vers le bas. Il y a la loi de notre entendement qui est dans notre esprit.
Qui nous tire vers le haut.
Qui nous tire vers le haut, bon. Il y a la guerre entre ces deux lois-là.
Avec les stratagèmes opposés, oui.
Le troisièmement, la bonne nouvelle pour le chrétien, c'est que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. Donc,
est supérieure.
C'est quelque chose qui est arrivé dans le passé à la croix. Bon. Ça, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. Donc, nous avons été affranchis.
Oui.
OK, bon. Maintenant, la question est, pourquoi ou comment, pourquoi on n'expérimente pas la victoire et la délivrance si cette loi de l'esprit de vie nous a déjà affranchis, ok? Ça, c'est une question. Pourquoi on ne l'expérimente pas? Okay?
Parce qu'on n'y croit pas.
Bon,
on croit le mensonge.
Donc, pour expérimenter, si on va dans Romains 6, 13, là, ça dit ça. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu
comme étant
vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Là, je pense que là, ça se réfère à l'âme et le corps. Donc, si, bon, pour expérimenter la liberté, la délivrance, oui, à la croix que Jésus a accomplie pour nous, c'est pas en essayant plus fort de surmonter le péché dans nos membres. Qu'est-ce qu'on a fait toute notre vie, là?
Mm-hmm.
Okay, ouais. Moi, j'ai fait comme ça. Essayer fort de vaincre cette loi dans nos membres. Okay? C'est comme ça dit Romains 6, 13, c'est simplement d'y céder.
De céder à la vie.
De céder notre âme. Notre âme avec...
volonté, pensée, émotion.
Volonté, émotion. Ça, c'est notre âme, puis notre corps, que ce soit notre bouche, que ce soit nos oreilles, que ce soit nos pieds, peu importe, non? Bon, d'y céder, puis lorsqu'on cède, on touche à la loi de l'esprit de vie, on
s'approprie.
On rentre en contact avec cette liberté-là.
Mm-hmm.
C'est juste en croyant, dans le fond, il n'y a rien à faire. C'est ça qui est...
C'est la foi.
C'est de croire
c'est
au fait, à ce que Dieu nous dit qui est vrai.
C'est puissant.
Ouais.
Si on n'a rien à faire, c'est juste d'y croire. croyez et vous verrez la gloire de Dieu.
Ouais.
C'est
Amen. Oui, Sébastien?
Wow. C'est comme Marc avait dit, si vous croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez.
C'est ça.
C'est ça.
Amen. C'est par la foi, le juste vivra par la loi. Par la foi, je rectifie.
La loi de l'esprit de vie.
Par la loi de l'esprit de vie. Amen, frère.
Ouais, c'est vrai, on vit par la loi, dans ce cas-là.
De l'esprit de vie. Mais c'est par la foi, dans la loi. On vit par la foi dans la loi de l'esprit de vie. Ah, là, je suis toute mêlée. Là, je pense que je vais prier puis que je vais demander à Dieu qu'il nous démêle ce spaghetti, là. Ah, Seigneur, c'est merveilleux d'être avec toi, te connaître et... Merci pour ta parole. Ta parole est vraiment, c'est la lumière sur nos vies. Tu éclaires, Seigneur, la réalité. Des fois, on est même, nous-mêmes, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Mais merci que ici, dans ce qu'on voit là, on peut comprendre ce que tout le monde on vit en tant qu'enfant de Dieu. Et merci pour Jésus qui vit en nous. Merci qu'il est, il est plus grand, meilleur, supérieur en toutes choses. Et qu'il n'y a pas de loi, de choses en nous, en dehors de nous, qui peuvent l'empêcher de vivre sa vie, de nous affranchir, de vivre la vraie vie, Seigneur. Donc, on te remercie pour ça. Tu es merveilleux, tu es plein de grâce, de vérité. On te loue de tout notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Ben, c'est